professeur Badoura. Monsieur Badoura a contribué largement en Allemagne à faire connaître la santé publique dans les années 90, dans un premier temps ici à Berlin. Moi, j'en ai profité justement lorsque je suis arrivée ici à Berlin. Et puis, il a été actif à Bielefeld. Monsieur Badoura représente justement ce secteur de la santé publique dans différents domaines, l'épidémiologie. Il a fait des recherches sur la santé en ce qui concerne surtout l'orientation vers le patient. Et je vais demander à Monsieur Badoura de bien vouloir prendre la parole.
Vielen Dank, Frau Moszewski.
Merci, Madame Wachniewski-Schneider, mes chers collègues, Madame, Messieurs. Alors, orientation vers le patient, ça c'est un thème aussi à part, mais aujourd'hui, je voudrais essayer de vous exposer autre chose, justement pour faire suite à ce que vient de dire le professeur Ménard, à savoir les investissements dans le secteur de la santé. Depuis de nombreuses années, nous nous occupons de la politique de l'entreprise en faveur de la santé. Comment faire pour veiller à ce que la santé des salariés, des collaborateurs et collaboratrices s'améliore et en même temps, ça c'est naturellement donc un intérêt professionnel, comment faire pour veiller à ce que les systèmes de sécurité sociale soient sauvés, puissent survivre. Donc, là, il y a une approche très intéressante. D'un côté, bon, ça remonte vraiment à tout l'historique de notre discipline et en même temps, ce sont des problèmes qui restent d'actualité comme il y a 100 ou 150 ans. Alors, au début de l'industrialisation, comme vous le savez tous, la santé publique, c'était un petit peu synonyme donc de prévention et d'hygiène sanitaire. Et naturellement, on n'a plus voulu utiliser le terme parce qu'il y a eu naturellement la période nazie où ce terme a été discrédité. Bon, en tout cas, au 19e siècle, il n'y avait pas véritablement de possibilité d'apporter des soins, de guérir. Et donc, il fallait surtout s'appuyer sur la prévoyance de la part de l'État et sur la prévention, c'est-à-dire se protéger, se prémunir contre les risques de la société industrielle. Donc, se prémunir contre les accidents dans l'entreprise, dans le travail. Et là, il y avait donc quelque chose de très important à savoir l'assurance contre les accidents. C'est une branche qui est justement en pleine restructuration maintenant. Aujourd'hui, naturellement, les choses changent complètement. L'aspect santé publique à l'heure actuelle est intégré dans le système économique. Il s'agit de s'occuper de personnes malades ou dépendantes. Ça fait partie du secteur des prestations de services à l'heure actuelle, basé sur la connaissance et en quelque sorte un secteur précurseur d'une nouvelle économie. Mais en même temps, on peut se demander, on peut avoir le droit de poser la question, est-ce qu'on choisit bien les priorités. Évidemment, la mondialisation intervient ici, donc et il y a différentes façons d'aborder les problèmes d'un pays à l'autre. Et évidemment, le problème ne disparaîtra pas, mais il faudra savoir comment gérer justement le problème à l'avenir. Ma thèse centrale est alors la suivante. Face justement à la mondialisation, il faut essayer de trouver une façon intelligente de gérer les choses. Or, nous avons besoin d'une politique sociale ce que j'appelle investive, donc réalisant des investissements, c'est-à-dire une politique sociale qui contribue à réduire le besoin en prestations sociales. Il ne s'agit pas de supprimer l'État, la prévoyance, il s'agit de restructurer l'État. Il ne s'agit pas d'avoir plus ou moins de dépenses, plus ou moins de prestations, mais il s'agit de savoir si nous appliquons les bonnes choses, les bonnes méthodes, est-ce que nous faisons les bonnes choses, ce qu'il faut et comme il faut le faire. Ce sont les questions qu'il faut se poser. Et la politique sociale préventive, la politique sociale qui investit, peut contribuer justement à déplacer un petit peu les priorités, à regarder ce dont on aura besoin pour l'avenir et ne pas dépenser tout l'argent uniquement pour traiter les personnes malades. Prévention, promotion de la santé, ce sont là les investissements sociaux qui sont réalisés. Surtout, ceci permet d'éviter les retraites anticipées, le chômage de longue durée, le traitement des malades et les accidents. Une politique de santé de l'entreprise qui soit active nous permet de trouver une bonne approche. Il y a un an, ici à Berlin, il y a eu donc une réunion de la Fondation Hans Böckler. L'interprète s'excuse, l'orateur n'est plus devant son micro. Nous n'entendons presque plus l'orateur en cabine. Monsieur n'est plus devant son micro. Merci, merci. Merci. Voilà, je disais donc qu'il y avait une conférence qui s'était déroulée et il y avait donc toutes les institutions correspondantes d'Allemagne représentant vraiment de la politique, de l'économie, des partenaires sociaux, chefs d'entreprise, etc., qui étaient présents là. Et on a essayé justement de voir à l'avenir. Comment faire pour mettre en place une politique de santé dans l'entreprise? Comment faire pour partir des problèmes qui existent à l'heure actuelle, des problèmes qui pourraient survenir à l'avenir? Et comment faire pour faire face à ces problèmes et ne pas attendre que quelqu'un tombe malade pour prendre des mesures? Cette stratégie, donc, qui est élaborée, s'appelle donc réévaluation de la politique de la santé. Donc, il s'agit d'avoir une bonne santé assurée, naturellement. C'est là l'objectif, donc, d'avoir des salariés en bonne santé. Et en même temps, bon, l'objectif, c'est toujours aussi de garder la compétitivité, la qualité, la productivité dans l'entreprise. Mais outre cela, on doit arriver donc à une baisse des coûts de traitement, moins de contacts avec les médecins, moins de pharmacies, moins d'indemnités à payer, moins de chômage, moins d'absentéisme, etc. Et ce que je vous expose aujourd'hui, c'est ce qui résulte d'une large étude qui a été réalisée avec 4 entreprises, où nous avons justement essayé de développer une nouvelle conception, ce que nous appelons le capital social. Nous partons de l'hypothèse suivante. Les entreprises qui ont beaucoup de capital social ont plus de succès au plan économique et ont moins de problèmes de rotation dans les chez les personnels, ont moins de prestations sociales à fournir. Alors, revenons d'abord aux données macroéconomiques. Vous avez ici une comparaison donc de nos deux pays, notamment pour ce qui concerne les dépenses en santé publique. Et vous voyez que nous avons quand même une bonne position donc, pour ce qui concerne l'Europe. Bon, on pourrait dire que c'est beaucoup trop peu, mais on pourrait comparer avec d'autres pays de l'OCDE. On pourrait dire que l'Allemagne et la France, en ce qui concerne les dépenses, ne sont pas si mal que ça. Donc, ce n'est pas l'argent qui pose problème ici, on le voit. Mais si l'on regarde maintenant donc les gains de vie, comme on disait tout à l'heure, eh bien, nous voyons que nous, en Allemagne, nous avons un problème. Nous dépensons le maximum, nous sommes ceux qui dépensons le plus. Mais en ce qui concerne donc le gain de longévité sur cette phase 62 000, eh bien, nous ne sommes pas tellement en bonne position. On est tout juste dans la moyenne des pays de l'OCDE, alors que nous dépensons le double de certains autres pays. La France, ici, se trouve quand même en bien meilleure position. Alors, bon, on se doutait toujours que le mode de vie en France était vraiment plus favorable et c'est peut-être cela aussi qui transparaît à travers ces données. En tout cas, on peut dire que nous dépensons beaucoup d'argent et on n'en tire pas grand-chose en Allemagne, manifestement. Donc, manifestement, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas et c'est justement notre tâche de mieux gérer les choses. Alors, si l'on regarde donc le taux d'activité des personnes à partir de 55 ans, au-delà de 55 ans, et là, on a le même problème dans les deux pays. Chez les Français, c'est encore pire. Vous savez, les objectifs de Lisbonne, jusqu'en 2010, on doit avoir 50% de cette tranche d'âge qui doit rester en activité. Or, on voit qu'il y a des pays qui sont déjà bien au-delà. Mais par exemple, en Allemagne, là, nous sommes là. Ça, c'est la moyenne de l'Union européenne et les Français sont là, donc cinquième colonne. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne le taux d'activité des personnes âgées, nous avons donc un problème dans les deux pays, ce qui veut dire que si nous voulons que les gens vieillissent en restant en bonne santé, il faut donc très tôt veiller à avoir des organisations du travail saines et de bonnes conditions de travail. Et je vais appuyer donc cela sur des chiffres par la suite. À l'heure actuelle, en Allemagne, je ne me suis pas trop occupée de la démographie en France, mais en tout cas, en Allemagne, nous avons un vieillissement très net de la population. Ça veut dire, en ce qui concerne la population active, sur les 10 années à venir, on aura un âge moyen de la population active qui va donc reculer. Et si l'on établit le lien avec l'incapacité au travail, eh bien, voilà les cas. Alors, la durée de l'incapacité au travail, ici, on voit qu'à partir d'un certain âge, ça augmente de manière dramatique. Et si on prend certains groupes socioprofessionnels, eh bien, c'est vraiment... Nous n'aurons pas le problème. On pourrait tous travailler jusqu'à 70 ans ici. Mais il y a des catégories professionnelles qui, à partir de la cinquantaine, ont vraiment des problèmes très sérieux et ne peuvent plus véritablement exercer leur profession. Alors, la question est de savoir si ça suffit seulement de relever l'âge de la retraite dans ce cas-là. Parce que exiger, revendiquer, c'est une chose, mais créer les conditions pour atteindre les objectifs, ça, c'est une autre chose. Alors, vous voyez ici cette courbe. Je reviens en arrière. Donc, la pyramide des, non, la structure des âges de la population active. Et là, on voit que dans les 10 années à venir, nos entreprises vont avoir des dépenses massives en ce qui concerne donc l'absentéisme. Et c'est un message qui est quand même passé maintenant dans pas mal d'entreprises et on sait, ah bon, il est grand temps de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a certaines réponses que l'on peut apporter. En tout cas, en ce qui concerne les dépenses, c'est ce qui intéresse bon, en particulier les entreprises. Les économistes ne peuvent pas passer outre, ne peuvent pas occulter le problème. Il faut bien d'abord gagner de l'argent dans l'entreprise et dans un premier temps. Et on a regardé, on a cette étude Dow Chemical ici et l'on voit que les coûts des mesures de santé qui n'ont pas été prises, qui ont été omises, ces coûts-là ont été évalués. Et bon, si on regarde sur le plan méthodologique, bien sûr, on peut avoir certaines interrogations, mais c'est quand même une première tentative d'essayer d'éclairer un peu le phénomène. Et alors, vous voyez donc cet absentéisme, ce que ça signifie par personne et par an, 661 $. Traitements médicaux retardés, 2278 $. Et les coûts. Donc, en cas de capacité réduite au travail, donc perte à gagner, 6 721 $. Alors, et là, par exemple, les restrictions en cas de maladie chronique, par exemple, on voit que ça représente 10% des coûts du personnel ici dont nous parlons. C'est-à-dire, nous ne parlons pas de phénomènes marginaux ici. ce ne sont pas des détails dont nous parlons ici. Nous parlons de coûts économiques extrêmement importants que nous pouvons éviter si nous agissons de manière ciblée, professionnelle et si nous investissons dans la santé de nos collaborateurs et collaboratrices. J'ai beaucoup parlé d'argent. Maintenant, j'en viens vraiment donc au vif du sujet, les facteurs non matériels. Et or, les facteurs immatériels jouent d'ores et déjà un rôle très important en ce qui concerne la santé des salariés, des collaborateurs et en ce qui concerne leur productivité. Voilà, on fait ici une enquête dans des PME. Et on fait la comparaison entre PME à gauche et grandes entreprises à droite. Ça a été mené en 2005 aux États-Unis. Et on leur pose des questions toutes simples. Je me sens souvent très plein d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 40% dans les PME disent oui. Oui, je me sens vraiment plein d'énergie. Dans les grandes entreprises, 28% seulement. Mon travail me permet de tirer le mieux de moi-même. 44% dans les PME, 24% seulement dans les grandes entreprises. Alors, quand on parle donc de stress à cause de la mondialisation, ce sont au contraire des problèmes de management dans la globalisation et des problèmes de dimension, bien sûr. Et moi, j'ai des problèmes avec ça, techniques avec ça. Je suis prêt à travailler de manière encore plus intensive. 61% des salariés dans les PME, 43% dans les grandes entreprises. Je fais mon travail avec passion, 53% contre 36%. Tout le monde sait ce que ça signifie quand on est passionné dans son métier, dans son travail. Et puis, voilà ce qui est décisif. Qu'en est-il maintenant, donc, de la rémunération matérielle? Paiement de bonus, 24% seulement dans les PME, mais dans 44% au contraire des grandes entreprises. Les options sur actions, 7%, 50%, et donc augmentation de salaire annuel, 34%, 74%. Donc, mesdames et messieurs, l'argent et les coûts, c'est pas ça le problème, c'est pas le seul problème. Il faut au contraire se tourner vers des facteurs internes, des facteurs immatériels pour voir qu'est-ce qui crée la satisfaction d'une personne, qu'est-ce qui rend les gens heureux en quelque sorte et qu'est-ce qui les rend productifs. Eh bien, c'est un constat sociologique tout simple. Pour ma part, je suis sociologue de formation. Et il faut voir que la confiance mutuelle et des convictions communes, des règles communes, des valeurs communes, ce que nous appelons donc capital social, la qualité des rapports liés donc avec ces règles, ces valeurs communes, eh bien, c'est cela, justement, la base de la coopération humaine. Donc, ça commence par un rapport à deux, une relation à deux, et dans le couple, jusque dans le travail ensuite. Et si, en cas de carence de ces éléments, eh bien, vous avez les erreurs, les malentendus, les conflits qui se multiplient, la performance collective va donc diminuer et en fait vous avez également le bien-être des membres de l'équipe qui va également diminuer. Il y a encore d'autres citations que l'on pourrait apporter ici, une citation de Fukuyama. La capacité de créer un capital social par des formes élaborées de coopération sociale, c'est peut-être le principal avantage qui est conféré à l'espèce humaine. Alors, en fait, la thèse ici qui est exprimée, c'est que le capital social aurait aussi donc une base génétique ici. Donc, c'est propre à l'être humain, dit-on. Alors là, on pourrait citer d'autres auteurs, Russe et autres. cette approche capital social, il s'agit de rendre visible le patrimoine social d'une entreprise, de le rendre visible, mesurable, influençable. Donc, on complète ici les concepts de capital matériel et de capital humain par ce système social de l'entreprise ou de l'administration. Donc, pour exprimer les choses en bref, l'objectif, c'est là l'objectif de ce capital social et le contenu du capital social. Pour rendre les choses mesurables, et c'est de cela qu'il s'agit maintenant, on peut donc décomposer le capital social en trois composantes. Le capital de réseau, le capital de conviction et de valeur, le capital de conduite, de direction. Il y a eu une étude qui a été réalisée à cet effet avec le soutien généreux ici des fonds sociaux européens. Je travaille donc ici avec des économes. Et là, nous partons de ce modèle suivant pour la mesure. Ce sont ici des variables que nous avons mesurées avec des échelles dans un questionnaire. Et il faut à peu près une demi-heure pour répondre à ce questionnaire. Et dans ce questionnaire, avec ce questionnaire, nous avons donc fait une enquête auprès d'un millier d'employés auprès d'entreprises dans quatre villes différentes. Et vous voyez ici, donc, les facteurs, ce qu'on appelle les moteurs ici, le comportement de la direction, les convictions et valeurs communes, la qualité des rapports sociaux, la compétence technique. Là, c'était le capital social et ensuite le capital humain. Les indices précoces, confiance, engagement, état psychique, état physique, comportement de santé, équilibre donc entre vie privée et vie professionnelle et les indices donc ultérieurs, je cite à titre d'exemple, fluctuation, mobbing, qualité du travail, productivité des collaborateurs, etc. Et là, nous avons donc ces données suite au questionnaire, mais nous avons aussi des données fournies par les entreprises dans la routine, par exemple, la productivité, la fluctuation, la qualité, l'absentéisme. Ce sont des données objectives. Or, nous avons vu qu'il y avait vraiment un accord tout à fait remarquable entre les données objectives et subjectives. Et nous avons, par exemple, des questions sur les facteurs immatériels à l'avenir. Les entreprises qui veulent savoir cela, donc, devront faire des enquêtes auprès de leurs collaborateurs. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui le font, mais il y en a d'autres qui sont très réticentes. Pour des raisons que l'on peut comprendre si on regarde de près les résultats. Alors, maintenant, il y a donc les variables du capital social et l'on voit donc des différences ici tout à fait donc signifiantes. Vous voyez, par exemple, en ce qui concerne la communication dans l'équipe, en ce qui concerne le soutien social dans les équipes, nous avons pu donc tirer déjà un certain nombre de résultats. Et puis, qu'en est-il, par exemple, de la qualité du management, qualité des cadres, acceptation de ces cadres? Il y a des différences énormes aussi d'une entreprise à l'autre. Mais ces différences sont encore plus importantes si on va à l'échelon du service. Et c'est ce qui est très important donc pour l'intervention que l'on désire faire. Alors, voilà encore la culture de l'entreprise. On voit aussi de grandes différences dans les statistiques. Et maintenant, à l'échelon des services. Donc, et là, on voit, par exemple, qu'on a une entreprise avec 9 départements ou 9 services. Et l'on voit qu'il y a des variations très fortes d'un service à l'autre. Il y en a où tout se passe très, très bien. Et il y en a d'autres où, au contraire, donc la situation est très critique. D'ailleurs, soit dit entre parenthèses, c'était une grande entreprise de charcuterie. C'est une fabrique donc de charcuterie avec un millier d'employés. Bon, je vous en dis pas plus parce que nous garantissons l'anonymat des entreprises. Là, je vais regarder, par exemple, le sentiment d'appartenance à l'équipe ou, par exemple, donc, vous voyez encore les rapports sociaux, l'encadrement par les cadres, et là aussi de grandes différences au sein d'une seule et même entreprise en passant d'un service à l'autre. Donc, on voit tout de suite où est-ce qu'il faut agir en ce qui concerne donc la productivité, la santé des travailleurs, confiance, donc, par rapport aux supérieurs hiérarchiques, par exemple. Là aussi, il y a des différences. La culture entrepreneuriale, là aussi, donc, des variations très, très importantes. Donc, est-ce que les gens se sentent estimés par leurs supérieurs hiérarchiques, par exemple? Ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et nous voyons donc qu'il y a une variabilité très, très forte. Bon. Mais pourquoi le faire? Pourquoi mesurer cela? Eh bien, il faut établir les rapports. Je vais vous montrer différents modèles ensuite. Là, vous voyez, par exemple, on a demandé bon, si les gens vont bien ensemble au sein d'une équipe, au sein d'un département. Et là, on voit plus donc cette adéquation sociale est importante et mieux les choses vont. Vous voyez ça ici. Et on a un sentiment d'appartenance à l'équipe très fort. Ou alors, on demande aux collaborateurs comment ils jugent eux-mêmes la qualité de leur travail. On fait d'abord un avis subjectif. Après, on regarde l'évaluation objective. Mais là, subjectif. Et on voit donc le sentiment d'appartenance et la qualité du travail. Eh bien, il y a exactement parallélisme. Les deux choses vont de pair. Ou bien sentiment d'appartenance et au contraire mobbing ou harcèlement. Si vous vous sentez donc sans cesse harcelé par vos collègues. Eh bien, on voit aussi donc que si c'est un problème structurel, lorsque vous avez peu de sentiments d'appartenance, eh bien, le risque de mobbing augmente. Moins il y a sentiment d'appartenance, plus il y a risque de mobbing dans le département, dans le service. Ensuite, donc, par exemple, ici, le bien-être des salariés, par exemple, qui joue aussi un rôle très important. Ou bien, ici, on a mis le rapport entre le travail porteur de sens et le sentiment de bien-être. Ou bien, estimation des salariés, donc, des gens qui se sentent estimés d'un côté et le mobbing de l'autre côté. Quand les gens ne se sentent pas estimés à leur juste valeur, ils commencent à s'attaquer les uns aux autres. C'est un problème structurel, c'est pas la faute des employés ici. On a fait une étude, par exemple, des tendances suicidaires. Ça donnait à peu près aussi ces résultats. Et il y a eu des études donc bien plus anciennes déjà, où on a déjà commencé à étudier ces facteurs. Ensuite, par exemple, le lien entre les valeurs communes, les normes communes et la qualité des prestations au travail. Et là aussi, on voit donc que si l'on a ces valeurs communes, ça a une influence sur la qualité du travail ou bien confiance envers les supérieurs hiérarchiques et tendance à la dépression. Eh bien, c'est un résultat très impressionnant car vous voyez que la dépression est générée par les tensions sociales et vous voyez que les rapports avec le supérieur hiérarchique, c'est un rapport stratégique extrêmement important. Et on voit très bien cela dans les données. Là où il y a peu de confiance envers les supérieurs hiérarchiques, la tendance à la dépression va en augmentant. Le work-life conflict et les troubles psychosomatiques, là, évidemment, toujours des courbes très claires. Là où les gens disent qu'ils arrivent à bien avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout va bien. Au contraire, lorsqu'il y a déséquilibre, vous avez les troubles psychosomatiques qui interviennent, troubles du sommeil, énervement, etc. Nous avons essayé de faire un modèle ensuite sur le capital social ici. Et vous voyez donc ici la valeur, par exemple, qualité du travail 81. Nous avons donc de très bons résultats. Mais ce qui est étonnant, c'est pas que tant que ce sont les rapports sociaux qui joueraient un rôle très important, mais au contraire, la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, il y a déjà 30 ans qu'on nous dit que la culture de l'entreprise joue un rôle très important. Moi, je peux vous dire, la culture de l'entreprise, c'est un des facteurs souples que l'on peut détruire facilement et pourtant sont d'une importance éminente. Et puis, on voit donc, par exemple, le rapport entre mobbing et harcèlement, donc, et repli sur soi et donc les maladies engendrées. Ou bien, ici, donc, les pathologies de l'organisation. 50% des symptômes pathologiques peuvent s'expliquer par l'équilibre entre vie publique, vie privée et vie professionnelle. Alors, si cette culture de l'entreprise est tellement importante, qu'est-ce que nous avons ici comme élément mesurable? Ce sont en fait des choses tout à fait banales, mais qui semblent être très difficiles à être prises en considération dans la vie quotidienne de l'entreprise. À savoir, y a-t-il des convictions communes, des valeurs, des règles communes? Est-ce qu'on les vit en commun? Est-ce que les collaborateurs, collaboratrices se sentent véritablement estimés par leurs supérieurs hiérarchiques et se sentent traités de manière équitable? C'est une question que nous avions donc élaborée spécialement. Est-ce que le management, le comité d'entreprise ont la confiance des employés? Quelle est donc la cohésion entre les différents employés? Et est-ce que la culture de conflit, des conflits dans l'entreprise est considérée comme étant ouverte et objective? Ce sont des choses toutes simples. Depuis que nous sommes sur la Terre, nous autres, eh bien, ce sont des éléments qui jouent un rôle très important et ça vaut pour les grands groupes et pour les grandes entreprises aussi. Comment peut-on augmenter le capital social de l'entreprise ou de l'organisation? Évidemment, on peut avoir certaines procédures d'intervention, mais bon, là, ça n'a pas encore avancé autant que le diagnostic. Nous avons un bon diagnostic de l'entreprise, de l'organisation, mais en ce qui concerne nos capacités de nous attaquer aux problèmes diagnostiqués, ensuite d'éviter ces problèmes, alors là, évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Alors, des mesures de mise en confiance, tout ça c'est bien connu, transparence, possibilité de participation, développement de convictions communes, mise en réseau des membres de l'organisation, promotion des compétences sociales, renforcement de la cohésion interne au sein de l'entreprise et donc lien émotionnel avec l'organisation ou l'entreprise. Interrogation donc auprès des employés, participation, gestion transparente des résultats des enquêtes, marketing interne, qualification des personnels et prévention des maladies organisationnelles. Et là, ce sont donc les conclusions que je tire comme expert de la santé publique et ce sont donc les recommandations que je ferai vis-à-vis de la politique. Que pouvons-nous faire pour professionnaliser donc la prévention? Et je dirais, premièrement, qu'il faut avoir déterminé de manière démocratique les objectifs. On peut avoir une stratégie annuelle, biannuelle, qui doit être discutée, qui doit être prédéterminée. Ensuite, infrastructure harmonisée des données. Nous avons des quantités incroyables de données en Allemagne, mais il faut d'abord les traiter dans un premier temps. Il nous manque en même temps certaines données. Mais bon, les organismes d'assurance sociale ont des quantités industrielles de données à nous fournir. Nous avons besoin de normes fondées de manière scientifique pour les performances, des mesures de qualification des experts. Mais bon, sans normes, on ne peut pas avoir de résultats. Il faut donc arriver à une standardisation. Il faut donc, je disais, une bonne qualification des experts et des incitations pour les entreprises, pour les les administrations pour le secteur tertiaire. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.